dimanche. Donc, grosso modo, c'est ça votre week-end météo.
Depuis qu'on a fait la bombe.
Ben, c'est ça.
Alors, mon invité, que je connais maintenant pour plus de... Ça fait plus de 10 ans déjà. Ça a commencé avec un trip extraordinaire. Ses parents sont propriétaires d'une quincaillerie. La quincaillerie décide d'avoir 1-2 barbecues et les enfants des propriétaires commence à triper sur le barbecue plus que ses vis. Puis les clous, puis la taude, puis la... Fait qu'ils ont dit, toi, Pop, tu vas t'occuper de ça, puis nous autres, on va s'occuper du divertissement qu'est le barbecue. Aujourd'hui, c'est devenu gigantesque. Il est coprésident et gourou du barbecue au Québec et chez Barbecue Québec, et c'est Max Lavoie. Salut, Max.
Salut, ça va bien?
Avec ton frère JP.
Bien sûr.
Vous êtes embarqué dans cette histoire-là.
Ouais.
Je résume vite, mais c'est un peu de même que ça a commencé, là.
Ouais, ben 100%, là, en fait.
La ligne ça. Napoléon au début, là.
Ouais, exact. En fait, mon père, il voulait rien savoir là, de vendre du barbecue haut de gamme. Fait que j'avais, t'sais, moi, j'avais fait un plan parce que en quincaillerie, c'est le fun. On aide les gens, puis j'adorerais toujours ça. On répond à un besoin, on donne un service, mais ils sont jamais contents. Tu sais, vous parlez tantôt de la toiture, là, dans le live, là. Gagner une toiture, c'est le fun parce qu'elle coûte rien. Mais une toiture, ça coûte, mettons, 10 000 piastres, là, je pense, dans le quotidien. Tu vas avoir ça pour 25-30 ans. Ça va couvrir ta maison. Ça protège ton toit. Mais t'es pas content de payer ça.
C'est pas une belle dépense.
Exactement. C'est essentiel.
Tandis
ça.
Que le barbecue, les gens sont comme, hey, mon barbecue est fini, man. Je peux m'en acheter un autre. Yes! C'est comme, je veux ça tous les jours de ma vie, moi.
Mais quand tu commences, là, puis là, tu rentres la ligne Napoléon, qui était quand même assez dispendieuse par rapport. Tu sais, t'avais des barbecues à 200-300 piastres à peu près partout.
C'est ce qu'on vendait.
Là, Napoléon, c'était 1500, 1700, moi. Mais je le disais, j'ai lavé le mien encore à la machine à pression, puis il passe l'hiver dehors, là.
Ouais, ça va.
Et il est comme, les écritures sont parties, mais il est comme il était quand il était neuf.
Ça va, ça.
Puis ça fait, c'est ça, 11 ans, je pense.
Le spécial du pont.
C'est exact. Bon, mais quand tu commences, tu fais que du barbecue au gaz à ce moment-là, là. Toi, tu découvres.
Ça prend ça,
Ça prend un barbecue au gaz.
Nous, là, tu parles, définitif, là. On était barbecue au gaz, à 100%. On rentrait Napoléon. Mon père, en plus, m'avait dit jamais qu'un barbecue de 800 piastres et plus va se vendre dans une quincaillerie. Fait que j'étais comme challenge un peu. Mais si j'avais dit en plus, on rentre des barbecues au charbon, là, j'étais mort, là.
OK.
on vendait comme 2 sacs de charbon par année parce qu'on avait commandé par erreur.
Vraiment, OK, c'est ça.
Zéro,
et comment t'arrives là à embarquer dans le charbon? Parce que là, c'est plus compliqué. c'est
la vraie histoire.
Oui, la vraie histoire.
J'avais 9 bonbonnes de propane vides à la maison.
OK.
Puis j'avais un sac de charbon, fait que j'avais aucune façon de faire que mon steak, fait que je me suis dit, bon, je vais l'essayer, le charbon. J'avais, tu sais, essayé ça ici et là dans les restaurants, etc. Mais c'était pas quelque chose qui était inné, là, du tout, là, parce que tout le monde avait toujours dit, ah, le charbon, c'est long, c'est compliqué, blablabla. Puis j'ai allumé ça, ça a été vraiment le fun. J'aime ça faire des feux, j'aime ça allumer des feux, là, fait que j'avais vraiment eu du fun. Puis le goût.
T'as un pyromane contrôlé, finalement.
Bon, sérieusement, quand j'étais jeune, j'allumais beaucoup de feux, là, de contrôler. Mais j'adorais ça, fait que je me suis dit, tu sais, je veux devenir pompier, mais je mesure comme 5 pieds 6 et demi. Je pense pas avoir... J'aurais pas été un bon pompier. Puis pyromane, ça paye vraiment pas, en fait, là. Donc,
barbecue, en prison,
je contrôle le feu.
Fait que t'as commencé ça.
Ouais.
Est-ce qu'aujourd'hui, honnêtement, quand on devient un maniaque et un spécialiste du charbon de bois, puis là, tu vas créer... Ça va ajouter des saveurs, puis même des fois des textures.
Oh ouais.
Est-ce que tu... Moi, le barbecue au gaz, là, c'est comme pour les gens, tu dénigres pas ça.
Non, jamais. Là. J'ai 3 enfants, moi, là.
Okay,
15, 7, 6 et 7 mois. Fait que le barbecue au gaz, c'est ce que je me sers le plus. Là.
Okay.
C'est rapide, le charbon, mais il faut quand même que tu sois dans l'état d'âme de ça. Puis c'est sûr que, tu sais, ma femme, t'as dit coprésident au début, ma femme, c'est l'autre coprésidente.
Okay.
Fait que quand moi, je disais, hey, mon amour, je m'en vais allumer le barbecue, elle est pas hurrah. Elle est comme, reviens dedans rapidement parce que, genre, tu sais,
j'ai besoin d'aide.
Je peux plus vraiment l'impressionner non plus en faisant des grosses affaires sur le barbecue. Fait que c'est pas. Fait que, moi, le grill au gaz, on-off, clac-clac, je fais mes affaires. Barbecue granule aussi, je travaille beaucoup avec la granule. Je pars ça le matin, je le salue toute la journée, puis j'ai pas besoin.
Et ça nous a appris également avec le temps que d'aimer le barbecue, c'est pas juste d'aimer manger ce qu'on a préparé. Ouais. C'est d'aimer la période de préparation, puis de cuisson, puis d'attention qu'on doit donner à ça. Là.
Ouais, vraiment. Puis même, tu sais, nous, là, je vais être franc, mon frère puis moi, on fait beaucoup. On est vraiment spécialisés dans la cuisson. Puis c'est pour ça qu'on sort notre 3e livre, parce que c'est ce qui nous passionne. Tu sais, j'ai pas écrit de livre sur la business, là. Pourtant, notre business est dans les plus fortes croissances en Amérique, là. Tu sais, on est une très bonne business. On a une super équipe pour ça. On les aide, mais dès qu'ils me disent, va-t'en faire du barbecue, je suis comme, OK, salut. Et quand quelqu'un dit, ah, laisse-moi le barbecue, je m'en occupe, je suis comme, non, c'est mon barbecue.
Ça, c'est moi qui le contrôle.
C'est ça, c'est ton
frère. Quand ça a commencé, Est-ce que ça s'applique ici? Est-ce qu'on peut dire que l'élève a dépassé le maître? Moi, je me souviens, vous m'aviez appelé parce qu'on était en contact très direct, très souvent avec toi, puis avec... Comment il s'appelle le vieux monsieur, ton père, donc?
Bruno.
Il est très, très vieux, là.
Bruno.
Fait que, et là... On se parle, puis tu dis, hey, Stephen Reichlin vient à Québec. Oui. Pis,
il est à Paris, là, en passant.
C'est vrai?
Aujourd'hui, oui.
C'était comme le dieu du barbecue ça à ce moment-là.
C'est le Wayne Gretzky.
Ah oui? Est-ce que vous n'êtes pas passé devant lui? Vous avez amené autre chose?
On savait vraiment, oui, je pense que c'est la façon de le dire, ouais, vraiment. Ben, tu sais, Stephen, en fait, il cuisine beaucoup, en fait, il écrit plein de livres, puis etc., mais il a, tu sais, c'est un anthropologiste du grill, là. Fait que, tu sais, lui, il l'étudie, justement, il est allé à Paris, probablement pour aller étudier ça, puis voir les nouvelles tendances, puis, tu sais, il est très, 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 c'est un écrivain, en fait, carrément aussi. Puis oui, en barbecue, il est très, très fort. Nous, on a vraiment été vers l'approche comme client, parenthèse, puis Jean. Tu sais, je dis client parce qu'on vend des barbecues au final, mais moi, je vois ça comme une gang. Moi, je veux que tout le monde fasse du barbecue parce que la journée que tout le monde fait du barbecue, c'est la paix dans le monde. Tu peux pas, genre, être comme en guerre pour avoir un steak à cuire en même temps. Ça fait aucun sens.
T'sais. Et ben trop dans le jus, non.
Ouais, c'est ça. Tu sais, puis genre,
c'est ça que le Canada devrait faire, livrer des barbecues en Russie.
Mais oui, c'est ça, exactement. Je m'en allais là, en plus, en Russie, il y a un gros show de barbecue, puis j'avais prévu y aller là, d'ici comme 5 ans.
OK.
Je pense que je pourrais peut-être pas y aller, là, mais.
Ça va être remis pour
moi. Ben oui, c'est ça. Tu sais, je les aurais écœurés en disant on est meilleur que vous autres au hockey, blablabla. Puis tu sais, on aurait eu du fun, une genre de guerre amicale. Puis c'est ce qu'on fait en barbecue.
On est peut-être meilleur que eux autres dans le barbecue aussi.
Oui.
Si je te demande de cibler avant de passer au livre, c'est où l'endroit? Mettons que tu sais, t'as un endroit, t'as une référence à retenir. Tu sais, au Texas, il y en a. C'est où le
spot,
ouais.
Sérieusement, je suis même pas gêné de le dire, mais le Québec.
Ah ouais?
Présentement, là, avec ce qu'on... Ben, tu sais, tout ce qu'est-ce que c'est... Puis je dis « on », mais je parle pas juste de nous, je parle de tous les gens qui font du barbecue présentement au Québec. Je veux dire, on est en train de vraiment se faire démarquer. Tu sais, j'arrive justement de Paris, voilà un mois, je suis allé faire le Barbecue Expo de Paris. Puis tu sais... Ils sont très forts, là. Ils sont vraiment bons en cuisson. On s'entend, là, les Parisiens puis les Français en général, de la préparer la bouffe, faire un gâteau, etc. Mais quand on arrive à genre lancer des steaks dans le feu, complètement être créatif, faire de la brisket, injecter du beurre dans un filet mignon pour aller chercher un goût plus américain, ça c'est vraiment nous autres, là. Puis tu sais, c'est le fait. Puis ça fait longtemps que je le dis, c'est comme le fait d'être européen, mais d'être français en fait, puis d'être américain en même temps. On est unique dans le monde à avoir ça. Puis pour le barbecue, je veux dire, tu sais, les Américains sont incroyablement bons en barbecue, mais pas sur tout. Fait que quand on arrive aux États-Unis pour on fait une compétition de barbecue, on va faire du filet mignon, justement, injecté au beurre avec du cognac. Là, ils sont comme, what? T'sais, d'habitude, on injecte notre brisket, nous autres. Fait qu'on est complètement fuckés.
On va ailleurs et ça, c'est bien différent. Puis l'autre affaire qu'on m'a souvent dit également, puis malgré qu'on soit tant au nord et qu'on a une météo de marde, qu'à peu près tout le monde a un barbecue à la maison.
C'est fou.
Ce qui n'est pas le cas à travers le monde.
Non.
Aux États-Unis, ils mangent du barbecue, mais c'est pas tout le monde qui a un barbecue sur sa galerie à l'année.
Le pourcentage de personnes qui ont un barbecue au Canada est plus élevé qu'aux États-Unis.
Donc, c'est vraiment fort de ce côté-là. Ouais. Bon, là, le barbecue, c'est le cœur de la business, Barbecue Québec. Mais à ça, vous dites, ben là, il faut quand même aider les gens, il faut les motiver à aller plus loin.
Ouais.
Et vous avez fait un nouveau livre de recettes.
Exactement. Puis, tu sais, comme tu dis, le but, c'est d'aller plus loin puis d'explorer. Puis, tu sais, on parlait de Stephen Reichlin là, tantôt. Il y a tellement d'erreurs que je n'ai pas eu à faire parce que je le faisais bien à cause qu'il était là à me coacher. Là. La première fois, j'ai lancé un steak dans le feu. C'était comme c'est lui qui me disait « OK, mets-le dans le feu. » Fait que c'est facile. Fait que quand les gens arrivent et me disent « Oh non, j'ai jamais osé essayer ça. » Au début, je comprenais pas. Mais à un moment donné, j'ai réalisé t'sais, un steak, là, dans le temps, c'était 40$ un gros steak. Là c'est rendu 60 probablement. Tu veux pas lancer ça dans le feu si tu l'as jamais fait puis risquer de le rater. Ça fait aucun sens, mais quand tu l'as réussi, puis tu l'as déjà vu, puis tu l'as déjà expérimenté, ou tu l'as lu, justement, ben, c'est malade, là, sérieusement.
Parce que moi, c'est ton frère JP qui était venu chez nous, dans mon cabane d'Ojo, il avait pitché ça dans la braise, puis il t'a ressorti, et c'est le meilleur, parce que moi, j'aime ça brûler, là, sur, et c'est ce que ça donne sur l'extérieur.
Exact.
C'est un Pittsburgh, c'est comme ce qu'on appelle
ouais,
ça.
Ouais, Pittsburgh, homme des cavernes. Okay. Un peu, toutes les façons.
Et là, ça donne, et là, donc, dans ton nouveau livre, est-ce qu'on parle de ce genre de cuisson-là? Est-ce qu'on va dans ce genre de lignée-là, là?
Je sais pas si t'as eu le temps de le fêter, là, mais.
Non.
J'ai vraiment, ben, tu sais, dans le livre, là, on a pris ça vraiment en se disant, de un, le bœuf coûte cher, les grosses pièces de viande aussi, puis les gens, ils veulent pas risquer de débriser. Donc, tu sais, la brisket, il tombe en spécial souvent, là, dans les circulaires. Tout le monde se gâte, mais il y a pas une façon de faire de la brisket, il y a plusieurs façons. Fait que là-dedans, on a comme 5 façons de faire de la brisket. Même chose pour le tomahawk. Tu sais, à la fête des mères, là, ma blonde, elle voulait manger un tomahawk. J'arrive à boucherie, le spécial est sur le filet mignon. Je suis comme, le filet mignon entier me coûtait le même prix que tomahawk, mais elle veut manger un tomahawk. Fait que j'ai acheté les deux. On a mangé du filet mignon toute la semaine. Après, mais le tomahawk, tu veux pas le rater parce que c'est une grosse pièce. Fait que, mais il y a pas une façon de faire un tomahawk. Il y a genre 6-7, bien, il y en a des dizaines et des centaines probablement, mais on en a mis 6 là-dedans. Parce qu'on veut que les gens comprennent que, tu vas jamais le rater. Il va tout le temps être bon, mais il faut juste comme être créatif un peu, puis on les a toutes testés, les façons. Okay. J'en ai cuit des milliers de tomahawks, là.
Fait que, c'est vrai qu'il faut mettre toujours un papier d'aluminium autour de l'os qui dépasse. Le tomahawk, c'est la grosse pièce de viande avec l'os qui
dépasse. J'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, puis je sais non. pas pourquoi les gens.
Non, puis il l'explique que... dans le livre.
Ah ouais?
Tu veux le voir brûler, genre? Tu veux voir le sang couler? C'est comme les larmes de la Sainte Vierge.
Ok, tu veux voir ça?
Ouais, moi, je vois tout le temps ça passer sur Internet, mais je comprends pas. Là, si tu le mangeras pas, anyway, il peut être brûlé un peu. Tu veux que la chair, la moelle, pardon, qui est dedans, tu veux qu'elle sorte, je sais pas, il y a quelque chose. Puis il y a vraiment une larme de sang qui coule au bout de l'os, là, quand elle cuit, là. Fait que...
Mais une pièce comme ça, est-ce que c'est pour deux personnes?
Ouais, ouais, clairement. Ben. Ouais,
bon. Généralement, ouais, y a des cochons, là, mais ouais. Les gens normaux.
Moi, tomahawk, on achète ça pour la famille, je le coupe, puis après ça, on le sert. Là. Ma blonde, il y avait quelqu'un chez nous cette semaine pour un petit 5 à 7, puis je préparais le souper à ma blonde, puis tu sais, je coupe le filet mignon, je mets tout. Puis là, il m'a regardé en voulant dire. Puis il dit à ma blonde, tu manges tout le temps comme dans un événement, puis au restaurant, elle était là, ouais, pourquoi? Moi, je fais le service complet. Là,
ah ouais, c'est vraiment tout.
Tant qu'à le faire, tu le fais comme
c'est
ça.
C'est quoi ton coup de cœur, la pièce de viande qui est hot, là, tu sais, je veux dire, c'est beau, les filets mignons, puis on aime ça, là, ouais, mais ouais. Maintenant, tu sais, avec la joue qui s'ajoute, il ouais, y a plusieurs pièces. Ben, laquelle t'aimes le mieux, toi?
Ma recette favorite de ce livre-là, c'est le cœur de bœuf farci au homard.
Ah, tu me niaises, là. Non, vraiment le cœur.
Le cœur, exactement. Ah, parce que, tu sais, on a une section dans le livre qui est le bœuf de la barbe à la queue.
OK.
Fait qu'on va être sûr et certain que les gens maximisent, là. Fait que, tu sais, j'ai fait du gras de bœuf fumé, puis du bouillon d'os de bœuf, etc. Du foie aussi, c'est très bon pour la santé. Puis le cœur, ben, c'était vraiment important. Puis moi, ça fait longtemps que je voulais le faire. Tu sais, gars, il est ici, c'est de toute beauté, enveloppé, dans le bacon. C'est la totale. Tu peux pas aimer ça, sérieusement. Puis le cœur, c'est super tendre en passant, là. Puis ça goûte pas. Quatre choses. Là. Ça goûte le bœuf, délicieux, avec une genre de texture quasiment de foie gras. Là. C'est somptueux. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est...
Le
goût, c'est super bon. Ça goûte même pas le fer. Tu sais, le foie, c'est raide, là, un peu. Là. Mais le cœur, non, c'est... Je sais pas comment le décrire, mais c'est comme quasiment du filet mignon.
Est-ce que ça se trouve dans toutes les bonnes boucheries? Ou c'est rare?
Oui.
C'est quand même assez rare. Ça va devenir de plus en plus disponible. Si vous allez, genre, à boucherie, moi, je suis au lac Saint-Augustin, fait que j'ai déjà des sources à côté, j'achète mon cœur dans les étalages, là. Ça coûte genre 2$. Là. Des morceaux, par exemple, là, mais tu peux lui demander de l'avoir entier parce qu'il faut qu'il coupe, là. Entier, ça va te coûter probablement genre 8$, là. Ça coûte vraiment rien parce que personne achète ça. Les gens, je pense, vont en acheter de plus
mais
en
là,
plus.
Mais là, quand tu l'as, le morceau, t'as le cœur dans les mains, là. Ouais. T'as-tu des morceaux à enlever?
Il y a un peu de nettoyage à faire, là, mais pas tant. Là. C'est juste comme le tissu. Là. Puis, tu sais, anyway, je veux dire, moi, une couple de fois que je l'ai pas nettoyé, c'est juste quand tu le manges, c'est comme un morceau de bœuf que tu manges. Tu sais, que t'enlèves.
C'est ton coup de cœur, le cœur.
C'est le cas de le dire. Puis, c'est drôle parce que, genre, tout le monde, tu sais, si vous regardez sur Internet ou whatever, vous voulez une recette, tout le monde le coupe. Fait que, tu sais, en Amérique latine, ils en font beaucoup, mais ils vont couper ça, ils vont faire des petites brochettes, des trucs de même. Moi, je voulais faire un cœur entier.
OK.
Fait que j'ai fait ça. Ça a sorti vraiment incroyable. Là. La recette est super bonne, toute. Puis là, je parle à ma tante 2 semaines après, puis elle me dit, ah, c'est vraiment drôle que t'aies fait ça parce que ton arrière-grand-mère, à Noël, elle servait un cœur farci. Pas au mort, là, mais elle servait ça comme, c'était le plat, genre, d'accompagnement que ma famille faisait, là.
Et est-ce que, vu que c'est le cœur, ça se mange cuit bord en bord?
On le cuit correct. Ben, tu sais, comme
médium. Ça peut pas être saignant, ou...
Ben, techniquement, oui, là. Il y aura pas de, tout, je suis des gens sur Instagram là, qui mangent cru tout, là. Puis okay. Oui, ils mangent un cœur cru. Là, fait que...
Mais vois-tu, j'aurais peur de faire des abats sur le barbecue. J'aurais peur que ça cuise trop, justement, pour que ça vienne un peu.
Ben, tu sais, comme le foie, moi, je vais le faire dans poêle de fonte. Okay. Fait que généralement, ça va être plus safe comme ça. Le cœur, personnellement, ça je te dis, c'est vraiment drôle. Ça ressemble vraiment à un filet mignon, sérieusement. Là.
Okay.
Fait que ça se cuit quand même très bien. Cuisson indirecte, là, idéalement, là, mais à une certaine température pour qu'il y ait quand même un genre de petit rôtisserie qui se fait à l'extérieur. Là. Mais tu sais, c'est tout des trucs de même. Ça en est des plus flyés, là, en parenthèse, bien que vraiment. Tu sais, puis dans 5 ans, ben, tu sais, mettons de la brisket de 5 ans, je vous parlais de ça, puis on savait même pas c'était quoi. Je me souviens, il y a 10 ans, on avait cuit une, puis elle était pas cuite. Là. C'est pas okay. Compliqué, on savait pas quoi faire avec ça. Dans une couple d'années, ce qu'on espère, là, en fait, c'est que les gens vont vraiment faire comme nous, puis vont maximiser
le. Mais justement, tu sais, le livre, ça s'intitule Max et JP Lavoie, l'art ouais. Du barbecue. Est-ce que tu t'adresses aux kingpin comme toi, ou non. Un épais comme moi va se retrouver dans ça, puis. Je vais prendre confiance pour
me lancer. On s'adresse aux épais, c'est ça le slogan.
On s'adresse à tout le monde. On s'adresse vraiment à tout le monde. Puis le titre, l'art du barbecue, s'appelle vraiment comme ça si je veux dire, il y a une réflexion derrière de ça. Il y a deux choses qui ont fait qu'on est un homme, un humain, pardon, qu'on est présentement. C'est le feu, donc le barbecue, ça veut dire barbacoa, donc feu. Le feu nous a amené où est-ce qu'on est parce que c'est pas cuit, c'est pas de la viande. Tu sais, la viande est vraiment importante personnellement, là. Mais les protéines de la viande sont une chose qui nous ont fait évoluer puis grossir notre cerveau, puis etc. Mais c'est la cuisson. C'est vraiment la cuisson de peu importe c'était quoi. C'est qu'on, même un légume grillé, on va mieux l'assimiler, etc. Fait que ça, c'est la première chose. Puis l'autre chose qui a fait aussi qu'on a pu garder tous les souvenirs, etc., c'est l'or. Si on trouve, si vous avez la chance de visiter les grottes, je me souviens plus sont où, là, mais tu sais qu'il y a les dessins des mammouths.
Oui,
là,
oui.
Ben c'est de l'or, ça. Tu sais, fait l'or et le feu, les deux ensemble, font qu'on a créé, on est rendu où est-ce qu'on est là. Fait que tu sais, dans ce livre-là, vous allez faire un steak dans le feu. Il n'y a même pas de barbecue, là. Puis il n'y a pas de recette en passant. Il y a des recettes dans le livre, mais le steak dans le feu, j'explique pas comment le faire avec telle recette, puis le temps. Non, c'est comment lancer un steak dans le feu puis ne pas le brûler puis
comment pas le perdre le morceau de viande.
Exactement, ouais. Okay. Puis on a des trucs plus poussés comme la brisket de compétition là, que ça c'est mon frère.
Parce que quand tu regardes les épais comme moi là, c'est quoi l'erreur les plus fréquentes que tu vois là, que quelqu'un va essayer de passer de droite au la cuisson là, j'imagine, mais c'est
de
quoi
les erreurs? Se présenter au barbecue au départ, c'est une grosse erreur, ça. Comment? Pour les gens comme toi, juste de se présenter au barbecue, ouais, ça oui, quelle erreur commence
sûr,
là.
C'est quoi l'erreur la plus fréquente que tu vois?
Souvent les gens, tu sais, on donne des cours de barbecue, puis ce qu'on explique au début là, c'est exemple sur le grill au gaz, c'est que les boutons ils se tournent. Fait puis tu peux les laisser fermer aussi parce qu'on a tendance à tout ouvrir nos brûleurs au fond, puis à tourner la viande, puis à manipuler, puis à ouvrir le couvercle à toutes les deux minutes parce qu'on a peur de brûler. Premièrement, je veux dire, faut contrôler notre barbecue, faut comprendre que la cuisson direct, l'action directe, c'est deux choses complètement différentes. Puis les deux sont essentielles, tu sais. Puis les deux vont aller ensemble souvent. Puis le couvercle, une fois que tu es en cuisson indirecte, là, exemple, ça c'est comme mettre au four, tu le laisses à cuire. Là. Si c'est, mettons, une cuisson de 2 heures ou bien une cuisson de 10 minutes, ben ça sert à rien de checker à toutes les 3-4 minutes.
C'est ça. Là, tu me dis, arrête d'ouvrir le petit panneau. Là.
C'est difficile, c'est là, parce que c'est le fun. Ouais. Sérieusement, on s'entend. Puis si on vend des barbecues avec des fenêtres dedans, là, pour être sûr d'être capable. Puis si ça existe, là, des barbecues de même, ça vaut genre 12 000 piastres. Okay. C'est pas pour rien. Là. C'est parce qu'il y a des gens qui ils préfèrent regarder tout le temps à travers.
Oui, s'il y avait une petite caméra, puis je l'avais à l'image sur mon cellulaire, là, je serais heureux en temps.
J'y ai pensé.
Juste là-dessus, Max, parce que tu le mentionnes. Quelqu'un qui commence, qui n'est pas un pro du barbecue. Ouais. Est-ce qu'il s'achète un barbecue à 400$ ou il en achète un à 1200$?
Ben, mettons, on parle de gaz, là, personnellement, c'est clair qu'à 1200, tu vas être safe parce que tu vas tout le temps avoir une super de bonne cuisson stable. Tu vas avoir une performance, tu n'auras pas besoin de tout le temps de se soucier. Est-ce que
tu vas être capable de le monter en température.
Aussi, exactement, oui. Puis il va être surtout la stabilité. Tu sais, un Napoléon, tu es capable de le garder à 350 pendant des heures, mais tu peux le monter à 1800 degrés avec ton infrarouge. C'est ça qui est l'avantage. Puis souvent, les barbecues d'entrée de gamme, là, ben, il y aura beaucoup de variations de température. Puis c'est surtout les durées de vie là, qui sont. On parle beaucoup là, les prix des conteneurs, puis la Chine, puis le recyclage, là, je le disais tantôt dans le journal, tu sais, Cascade, ils disent, là, on a de la misère avec notre recyclage, mais le recyclage, généralement, de métal, là, il s'en va en Chine, ils le repressent, ils refont le barbecue, puis il revient. Fait que, tu sais, nous autres, ça, c'était une des affaires vraiment importantes pour nous autres, le côté sustainability, là, j'ai 3 enfants, je veux qu'il y ait un futur, j'essaie de vraiment maximiser le fait que quand je vends un barbecue, les gens, ils rachèteront pas un barbecue. Ils vont en racheter d'autres, mais de d'autres modèles, ils vont acheter un fumoir, un granule, etc., tu sais. Tandis que le grill au gaz, c'est comme un must. Fait que les gens me demandent, je fais un peu de radio, puis de TV, puis de médias ces temps-ci, parce que tout le monde veut savoir quoi acheter, puis les trends. Puis il y a quelqu'un qui m'a demandé la semaine dernière, c'est quoi le plus gros vendeur, les trends, puis aussi la plus forte croissance. Parce que la personne pensait que ça allait être un peu la même chose, mais j'étais comme, non, on parle vraiment de 3 choses complètement différentes. L'affaire qui se vend le plus, c'est le grill au gaz, parce que c'est un must. Tu dois le remplacer. Ton frigo brise, tu le changes. Puis exactement, les grills au gaz, généralement, ça peut varier quand même un petit peu plus cher. Fait que les gens, ils vont vraiment investir. Puis sont tannés de le changer aussi. Tu sais, quelqu'un qui a 50 ans, il a changé son grill peut-être 8 fois. Là. À un moment donné, il se tanne, puis il en achète un bon. Puis après ça, les plus grosses croissances, c'est vraiment dans la granule, parce que la granule aux États-Unis, puis dans l'Ouest canadien, qu'est-ce qui se vend le plus, pas mal. Puis nous autres, on commence à le découvrir, mais c'est vraiment facile, puis tu sais, t'as rien à faire. Puis la plus grosse trend, c'est vraiment bizarre.
Mais ça, la granule de bois, est-ce que c'est, mettons, le combustible, est-ce qu'il est dispendieux par rapport au charbon de bois, par rapport au gaz?
C'est les mêmes choses.
C'est à peu près toujours le même. Donc ça, c'est pas un enjeu de
non, pas ça. On est quand même bien là, pour ça, là, okay. Là-dedans. Fait que les gens sont chanceux. Puis qu'est-ce qui est drôle? Puis là, on parle d'un qui est top, qui est comme fiable, puis qui a pas une saveur incroyable. Après ça, t'as le fumoir au granule, qui est vraiment le fun parce que t'as de la saveur, t'as de la boucane, mais qui est simple. Puis ça, c'est la plus grosse croissance, mais la plus grosse trend, où est-ce que les gens, tu sais, on voit les trendsetters, là, qu'on appelle, oui. Ceux qui sont avant-gardistes, etc., c'est des barbecues au bois. puis genre ouvert, pas de couvercle, rustique, genre style argentin, style des trucs de même, puis là ils veulent comme passer leur journée à faire ça un samedi. Tu sais, c'est pas
grillé. Entretenir ton feu, etc.
Exactement, ouais. Tu bâtis vraiment ton expérience. Tu vas aller magasiner ta viande aussi. Tu vas t'assurer carrément qu'elle a été vieillie de ta façon ou accrochée. Puis là, tu vas la faire cuire. Justement, tu sais, là-dedans, on a fait un gros brasero, là, qu'on a accroché, genre un demi-bœuf entier, là, sur, au-dessus d'un gros pit à feu avec, tu sais, ça ici, là. Ça, c'était à mon mariage. Fait que c'est comme des gros quartiers de viande, une tête de cochon, des choux-fleurs, tout ce que tu veux, genre d'accrocher au-dessus d'un feu, à ciel ouvert, là. Puis là, ben, tu mets des poches de charbon un peu partout à travers ça. Puis là, le but, c'est quand que c'est prêt.
Ça crée une chaleur et la cuisson est en permanence.
En permanence, ça fume un peu en même temps. Puis là, les gens, puis surtout, tu sais, à mon mariage, là, les gens, ils ont tous dit que c'était comme le plus gros festin de leur vie. Là. C'était assez important parce qu'ils l'ont vu cuire. T'arrivais, là, puis t'avais comme un dôme de 12 pieds avec, genre, je sais pas combien de kilos de viande accrochée partout là-dedans. Puis tu le sais, toute la, là, il est comme midi. Puis là, tu te dis, je mange à 6 heures, le truc qui est là en train de fumer, ça va être malade. Fait que déjà, ton cerveau, il commence à saliver. Fait que quand tu croques dedans, même si c'est pas cuit comme du monde, même si finalement les épices sont pas bonnes, c'est délicieux. T'sais.
Surtout que c'était ton mariage.
Exactement, en plus.
Fait que là, 3 enfants, mec.
Ouais, ça arrête pas.
Ils sont-tu aussi mal commodes que quand t'étais petit?
À date, la petite dernière, la de la swing.
Elle a une petite voix,
ouais, vraiment, ouais, toute la gang, là, chacun de qualité.
C'est cool. Ouais. Fait que bravo à Barbecue Québec, puis l'expansion, puis tout ça. Le livre est à peu près partout. Hein?
Partout, en fait, disponible dans nos magasins, bien entendu. Puis on a une spéciale édition qui sort en juin, mais achetez quand même le modèle régulier, parce que le spécial édition, on a fait faire une œuvre d'art sur le couvert, puis elle est rigide. Fait que ce que je m'attends, c'est que vous voulez pas le salir. Fait que
ça pour la fête des pères. D'après moi, on tombe dans une idée de génie.
C'est ce qu'on essaye.
Alors voilà, c'est l'art du barbecue avec Max et JP Lavoie. C'est disponible partout. Alors, gâtez-vous, messieurs. Merci, Max. Puis bravo pour le travail et tout le chemin parcouru en 10 ans. C'est exceptionnel.
Très apprécié.
Voilà, Max Lavoie de Barbecue Québec. Vous êtes dans Dupont le matin.
The best show à la radio. Dupont in the morning. Ses potes, ses meufs, toute la bande. Le Ricard, le pastis, la pétanque. Allez!
Les oliviers baissent les bras. Les raisins rougissent du nez. Et le sable est devenu froid. Au blanche soleil.
Je suis tellement inculte. C'est-tu Gilbert Bécaud, ça?
Oui.
Ah, sérieux?
Oui.
C'est ça? Oui, t'as le seul nom.
Monsieur 100 000 volts.
Attends bien que ça soit lui. Est-ce qu'on va avoir, quoi, quand on débarque à Paris, il n'y a que des paris de la musique de France?
Ah oh, oui, il donne un béret, un baguette, un foulard, un chandail rayé à Polo Noël. T'as le kit.
Ta blonde va arrêter de se raser.
Ah oui, c'est ça.
Wow, ça va
être chiant. Juste une semaine, fait que ça, tu t'en rendras pas compte.
Tu vas-tu voir les clichés?
Tu vas fumer.
Aïe. Tu vas en débarquant de l'avion et mettre un tas de marde de chien, il faut que tu piles dedans.
OK, puis un coup ça fait, là, t'es initié déjà. OK, à 9h30, les amis. Ouais. Nicolo, tu voulais qu'on parle, parce que là, je vais avoir à prendre la viande.
Oui.
Y a des mythes à propos
de... Il y a des secrets des agents de bord, puis comme on a une ex-agent de bord avec nous, je voulais en profiter pour...
La blonde aussi.
Qu'on vérifie si c'était des vrais secrets ou si on essaie de nous en passer des petites vites.
Mais est-ce que ta blonde allait encore?
Non, en fait, pas du tout. Non,
OK,
non.
Elle fait ça un bout. Puis
fait ça un bout, après ça, elle travaille au Château Frontenac un bon bout. Puis là, elle est maman à la maison.
OK.
Ah, c'est ça.
Ça, c'est cool. Parce que, Karen, est-ce que... Il y en a, j'imagine, qui ont fait des carrières dans le bar.
Absolument, ben oui.
Mais ça doit être difficile parce que t'as un horaire atypique. Tu sais, on parle d'avoir des enfants.
C'est drôle, hein. Quand j'ai dit ça à ma mère que je voulais être agent de bar, elle était, mais voyons donc, tu peux pas, tu vas avoir une famille.
Et tu peux pas, tu vas avoir une famille.
C'est ça. La radio aussi, on m'a dit ça. Puis il y a plein d'affaires, on m'a dit ça. Au contraire, Steph, tu sais, tu vas travailler, tout dépendant de ce que tu fais comme vol, là, mais avoir 18 jours de congé par mois, je pense que c'est pas pire pour être une maman, mais tu sais, il y a autant d'horaires possibles qu'il y a de personnes dans l'aviation.
OK.
Tout dépendant où tu es situé, pour quelle compagnie aussi.
Pas ça que toi, 18 jours de congé par mois?
Ouais, à peu près.
Au total,
moi, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, 13 mai, aller au quasiment 1er septembre, je pense qu'il me reste 6 semaines
à travailler.
Ça va bien aller. Mais c'est les horaires atypiques quand même. Tu rentres pas coucher non plus.
Pas tout le temps, mais il y en a là, qui le font.
Il y en a qui reviennent à la maison tout le temps.
Oui, tu peux faire un Edmonton aller-retour, un Vancouver aller-retour, ça se fait. Mais il faut que tu sois prête à ce que que ça se peut que tu reviennes pas. Si
tu couches toujours quelque part puis avec quelqu'un. C'est juste c'est pas ton chum chez vous nécessairement.
Ah, ça, c'est tellement faux, là.
C'est tellement
c'est
faux,
hein?
Ah oui, c'est faux.
Ah ouais, c'est okay. Non. Hey, c'est les pilotes qui fourrent, à ce qu'il paraît. Hein? C'est les pilotes, ça y va. Ouais, mais
ils fourrent avec qui?
Ben, avec du monde partout. Ils ont des hommes. Mais c'est vrai que
c'est
moi aussi,
on
m'avait déjà dit ça. C'est tellement une légende.
Mais je ne sais pas que ça arrive pas.
C'est à cause des années 60 puis 70. Tu sais, quand tu checkes comme Catch Me If You Can, tu voyais ça. Il y avait six mannequins, genre qui.
La Paname.
La Paname, tu sais, puis tout ça. Ah oui, c'est vrai, Paname.
Paname, c'était ça.
Oui, mais c'était les belles années.
À cette heure, même moi, je pourrais être agent de bord.
Mais il y a des domaines, de toute façon, il y a des domaines pires que ça, où les relations entre les gens qui travaillent au même endroit commencent à se fréquenter, où ils ont des relations intimes. Tu sais, il y a pire probablement que l'aviation, parce qu'on s'imagine ça de l'aviation, puis ça semble être un mythe. Mais tu sais, dans la police, souvent, vous regarderez...
Il paraît dans la salaison, là, ça se donne pas mal. Là. Ouais, c'est ceux qui font du ballonné puis de la saucisse, ça a l'air que...
Je sais qu'à Québec...
Oui, dans le fond, excusez, oui, là, si je comprends bien, ça faut partout. Ça,
oui, mais...
Même en radio.
Un des pires endroits où ils ont à gérer les relations de couple à l'intérieur de l'entreprise, c'est chez Desjardins.
Desjardins, bien sûr.
Chez Desjardins, là...
Non, mais c'est un village au complet.
C'est ça, il y a une ville au complet, tu rencontres beaucoup de monde. Là, évidemment que la pandémie, ça a dû être différent, mais chez Desjardins, ça venait premier en haut de la police. Après ça, la police, eux autres, sont ceux qui sont le plus en couple.
T'as-tu une liste?
Non, mais... Hey, tu sais, l'autre jour... Peux-tu le raconter?
Oh, ouais.
J'arrive dans un resto, puis il y a une fille qui me dit « Hey, salut, ça va? » Oui. Elle dit « Je suis la blonde à telle personne. » « Ah, ouais, okay, mais cool, je t'avais jamais rencontré, puis je le connais pour XX raisons. Ah, » Dis-tu ça, ton chum? Puis, oui, j'ai dit « Mais là, restez-vous encore. » Elle dit « Non, moi, je suis la nouvelle. Tu comprends? » Il y avait eu un changement, puis là...
Il manque tellement de détails dans ton histoire. Ouais. C'est comme si j'avais vu le Titanic sans le bout où il rentre dans l'iceberg.
Là, on était à une seconde de dire « Ah, ouais, c'est la blonde à qui, ça? » Puis ça serait échappé, nous l'aurait dit.
C'est juste que la fille que j'avais jamais vue, c'est son ancienne blonde, sa femme avec qui il y a eu longtemps, il y a eu des enfants.
Mais à qui, ça?
Ben, à quelqu'un, c'est ça.
Okay, qu'est-ce que tu veux savoir, Nico? Okay, moi, je vais répondre à tes questions. Contrairement,
c'est pas le vrai nom. Tu lui donnes un nom pareil, genre mon chum Alfred. Tu sais, fait que là, on dit. Okay.
Mais Alfred, il y a une femme que j'avais jamais rencontrée, puis là, j'en rencontre une qui me disait de sa femme. Fait que moi, je pense que c'est elle avec qui il vivait dans tel village.
C'est la plus récente.
Ben là, elle dit non. Elle dit, moi, je travaillais avec, puis là, je t'en coupe avec.
OK, pour revenir à ça.
C'est
une relation conjugale, professionnelle.
C'est dans les services, parce que c'est une serveuse. Bon, on commence fort.
Oui.
Si un passager meurt pendant le vol, vous le laissez assis à sa place, vous mettez un peu de couverte autour. Puis,
si le vol est plein, absolument. Je veux dire, je peux pas inventer une place dans l'avion.
Tu peux être assis à côté de quelqu'un de mort.
Moi, j'ouvre la porte, je le kick out.
Ouais, ça marche pas de même. Mort ou vivant, moi aussi, j'aurais aimé ça en kicker certains out des fois. Fait que, ouais, si le vol est plein, absolument. Sinon, on va trouver un siège vide ou encore on va déplacer les gens pour qu'ils soient pas à côté du mort. Là.
Mais c'est quoi, y a-tu toujours un désagréable par vol, genre?
Non, mais il y a des destinations plus désagréables que d'autres.
Ouais, c'est ça.
Toujours deux, d'habitude.
Puis à cause de l'alcool ou... Désagréable de nature.
Pas nécessairement. Il y en a qui sont juste désagréables.
Le monde colon stock, ça existe.
Ah, mais hein. Oui, puis plus que vous pensez. Là.
OK.
On a une liste de tous les passagers avec leur nom et leur numéro de siège.
Oui.
Puis si on s'emmerde, ça se peut qu'on vous Google.
Comment ça, ils ont l'Internet dans l'avion, eux autres, puis pas nous autres?
Ben non, mais maintenant il y a pas mal tous les vols. Là. C'est sûr que si tu prends un avion de 1902 pour aller à Cuba pour 500$, ça se peut que tu n'en aies pas d'Internet. Là. Mais oui, on a ça pour des raisons de sécurité, premièrement.
Oui, ben oui.
Et ça arrive, par exemple, que tu as un passager, tu dis, mais ça, je l'ai déjà vu dans un film, lui. Il me dit quelque chose. Et sans le googler, tu vas aller voir sur la liste à savoir si tu es bien celui que tu penses. Okay. Et souvent, ça va confirmer.
Brad Pitt. Ah oui, mais c'est bien lui. Brad Pitt.
Peu importe ce que vous avez lu, ce qu'on vous a dit, ou les articles, ou les reportages, se faire upgrader de siège, c'est non 99% du temps.
Ben, je sais qu'il y en a qui ont des histoires. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. On m'a toujours dit que ça se faisait pas. Mais rendu là, il faut que tu sois directeur de bord pour le faire. Et je n'ai jamais été directrice de bord. Fait que j'ai pas pris cette décision-là.
Parce que moi, l'autre jour, ça m'est arrivé, puis c'est rare que ça m'arrive.
Être directeur de bord?
Non, mais ils m'ont changé de place. OK? Les deux plus gros de l'appareil, on était dans la même rangée. Fait que là, il était un peu mal à l'aise. Puis là, les gens m'avaient reconnu. Puis c'était un gars, il est arrivé, il dit, « C'est vous, M. Dupont, on vous changerait de place. » Tout le monde a... Ça a tout parti à rire.
Ben oui, c'est
parce
sûr.
Que voyons, c'est sûr que l'avion est déséquilibré. Les deux plus gros sont dans la même rangée. Puis ça, il n'y avait pas le poids, eux autres, au départ.
Oui, c'est... Non, mais le weight and balance, c'est... souvent, ça va être atterrissage, décollage qui va être le plus... décollage et atterrissage qui va être vraiment le plus important. Et ça va arriver lorsqu'un vol est vide. S'il n'y a pas beaucoup de gens dans l'avion, ça se peut qu'on vous déplace à l'avant ou à l'arrière pour être sûr que tout est...
Mais moi, j'ai déjà vu quand il n'y avait pas personne ou les sorties de secours, ils demandaient à deux personnes s'ils pouvaient venir s'asseoir là.
Oui, mm-hmm. Absolument.
C'est genre, on aurait besoin de deux personnes pour les sorties de secours. Fait que là, ils arrivent là.
Puis il faut être en mesure d'ouvrir la porte. Là,
t'as
une responsabilité. Si hein,
la porte vers toi, ben, t'as une responsabilité. Si moi, je suis pas capable de l'ouvrir, effectivement, je vais me fier sur toi.
OK. Tu parles physiquement.
Ben non, pas juste physiquement. Je dis, mettons que je suis blessé ou encore j'ai perdu connaissance.
OK.
Tu sais, c'est pas toi mon numéro un, tu comprends? C'est mon numéro deux. Le numéro un, c'est
T'es son numéro deux, Stéphane.
C'est ça. Mais il est important, le numéro deux, parce que le numéro un peut pas être là
pendant. C'est jamais, ouais.
Est-ce qu'il faut parler anglais? J'ai-tu inventé ça? C'est un mythe, ça? Parce que des fois, les consignes peuvent être données en anglais, peu importe on est où.
Tu vois, mais OK, il faut que je t'explique là sur un vol. Moi, j'ai appris mes commandes en anglais et il y en a d'autres qui les ont appris en français parce que leur cours se donnait en français. Mais la journée où on va crier, tu me crierais en espagnol ou encore en japonais, ben honnêtement, je comprendrais que la mare des poignées puis qu'il faut sortir.
Il faut qu'il se passe quelque chose.
Que je te dise emergency ou encore c'est une urgence, tu vas le comprendre là.
Okay.
Fait que ça, je pense qu'on va demander aux gens de parler soit l'anglais ou encore le français pour être sûr qu'ils comprennent bien les instructions qu'on va leur donner. Donc si j'avais des gens qui ne parlaient pas la langue que je parle, absolument, on va demander. Mais je te dirais anglais, français et possiblement plus en anglais là.
Good.
Quand l'agent de bord t'accueille, quand tu rentres dans l'avion, il vérifie deux choses. Si t'es sous ou drogué et si t'es assez fort pour que justement, si on a besoin de quelqu'un avec des bons bras en urgence, ben on va savoir à peu près où t'es.
Ah, plus que ça, on vous regarde tous puis on comprend les familles. On va remarquer les gens qui arrivent avec de jeunes enfants, quelqu'un qui va avoir peut-être plus de difficultés à se déplacer. Et on va remarquer les gens en uniforme, souvent sur les militaires, parce qu'on sait qu'ils sont en forme, qu'ils sont entraînés et que dans une situation d'urgence, ils pourraient devenir un aidant. Là.
J'ai de plus en plus la chienne à prendre l'avion d'un coup. Hein. Ils nous checkent pour voir si on est capable de sauver les autres.
Ouais. Ben oui, tu veux savoir qui t'as dans ton avion. Si, par exemple, je n'ai que des petites familles, ben je sais que ça se peut qu'on ait... S'il arrive... C'est toujours en mode s'il arrive quelque chose. On n'est pas là pour vous servir du coke puis des pinottes, là. C'est vraiment...
Tu peux pas appeler la police s'il arrive de quoi en vol, tu sais.
Il y a ça, puis le point, c'est de vous amener en sécurité du point A au point B, donc peu importe ce qui va arriver. Fait que oui, on veut savoir qui on a sur notre vol et qui pourrait nous aider en cas d'urgence, là.
Mais s'il arrive un problème, on meurt tout, de toute façon. C'est assez rare.
Pas tout le temps.
Stéphane. Oui, absolument.
Y a-tu des avec... juste la moitié qui meurt, pas toutes.
Pas toutes, la moitié.
La moitié, c'est de ton bord.
plus de chances d'être survivant si t'es assis derrière.
Derrière,
la queue arrache. Puis, t'es-tu arrivé des incidents, des bris d'appareils en vol qui ont
mené... Atterrissage d'urgence, c'est arrivé une fois.
OK.
Puis c'était pas une grosse... Ben, c'est pas une grosse affaire. C'est comme le power steering qui marche plus. Fait qu'une fois au sol, c'est moins pratique. Mais ça, les pilotes ont fait quand même toute les la liste, la checklist d'urgence. Fait quand on est arrivé à Toronto, ils nous attendaient, mais j'ai pas crié puis on n'a pas déployé les slides et tout ça. Là.
Okay,
mais ça, tu veux pas que ça t'arrive. Là. Jamais.
Moi, je m'ai écrasé.
Sérieux? Mm-hmm. C'est gros avec quoi?
Un vol d'Air Canada.
Ouais.
Nous autres, on allait faire des shows à Dubreuilville, dans le nord de l'Ontario, qui est une ville qui a été créée autour d'une série. Excuse-moi, des Dubés de Rivière-du-Loup qui sont là.
OK.
C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de monde de Rivière-du-Loup. Ça s'appelle Dubreuilville. C'est à 4 heures au nord de Sault-Sainte-Marie. Tu passes par Tu s'en vas au nord. Il y avait une grosse tempête, on part de Pearson, on arrive pour aller à Sault-Sainte-Marie. On arrive là, pas capable d'atterrir, on revient. J'étais avec deux autres humoristes. On repart encore de Toronto, on s'en va vers Sault-Sainte-Marie. Trop de neige, trop de vent, on revient à Toronto. Fait que là, il est full, une plus grosse avion. genre quasiment 12 heures plus tard. On embarque là-dedans, Étienne Danneau, moi, tout ça, Guerrier Pie, et là, on monte.
Tu t'es écrasé, P.A., c'est-tu passé Peter McLeod qui chauffait?
Ta gueule. Oh, pauvre Peter. Non, c'est pas lui qui chauffait. Puis cette journée-là non plus, d'après moi. Mais, fait que c'est ça. Fait que quand on est arrivé à Sault-Sainte-Marie, le pilote a descendu puis il nous a dit, on n'a pas une super belle vision sur la piste, mais on va l'essayer. C'est tabarn, tu sais. Ben, mais l'essayer, c'est pas, c'est comme, tu sais, m'essayer de mettre une bouteille d'eau qui tombe de route, là. Fait que là, ils ont, on va essayer, voir, genre, fait que là, et il avait calculé à peu près 4 pieds dans le vide, là.
Okay.
Fait que il est descendu, mais il a claqué beaucoup trop fort. Fait que l'avion a viré sur le côté. La roue a rentré de même en tour par de
alors,
côté.
Plié par en
puis là, l'avion a glissé de même vers l'aéroport de Sault-Sainte-Marie, tout petit aéroport. Puis là, on s'est arrêté là. Puis moi, je sais pas pourquoi, j'ai comme... on dirait que mon cerveau a fait... déconnecte-toi de ça, pire. Tu sais, genre, fais comme si t'es pas en train de le vivre, là. Fait que moi, là, quand l'avion a arrêté, j'ai fait...
Rêve.
J'ai applaudi. Hey, le monde voulait m'arracher la tête, là. Là, Danneau, qui est avec moi, Étienne Danneau, un autre humoriste, là. Hey, non. Puis là, ben, là, Danneau, qui est avec moi, un autre humoriste, il me regarde, puis il dit, « Man, c'est pas le temps pour une clap, là. » Je dis, « Non, t'es-tu correct, là? » Il fait, « Il se met à broyer.
Okay.
Tout le monde a éclaté. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a plein de monde qui avait filmé ça. Fait que là, Transport Canada, tout ça, ils ont mm-hmm. tout pris ça. Là.
C'est ça, il y a toujours une enquête du BST là-dessus. Ouais. Il n'y a pas eu de flamme, rien.
Pas eu de flamme, mais c'est sûr que ça a fait de la flamèche.
Ouais.
Quand que ça
break sec, là.
C'est mais ça, ça comme sorti vite de l'avion?
Non. Okay. Ils ont pris ça relax, c'est ça. Ils ont ouvert la porte, ils sont venus avec... parce que, tu sais, c'est pas quand même non plus une grosse aéroport, fait qu'ils n'ont pas de comment t'appelles ça?
L'escalier qui se promène?
Non, mais tu sais, où est-ce que tu vas coller l'avion, il n'y a pas de ça.
Oui, il n'y a pas de pont.
C'est vraiment un escalier qui arrive avec des roues, là, puis de mettre sur le bord. Fait que
okay.
On était à bonne hauteur, là, c'était l'autre bord que ça avait cassé.
OK. Capoté, ça.
Ah oui, c'est capoté.
Quand il y a des avaries comme ça, c'est toujours
excuse-moi?
Particulier.
Des quoi?
Des avaries. Merci, c'est un beau mot. Hein?
Oh, bravo, j'ai été décontenancé.
Il en reste deux. On dit nettoyer toujours votre plateau, c'est jamais lavé entre les vols.
Effectivement, mais maintenant, avec la COVID, ça a amené ça de bon. Là, je pense que le nettoyage des avions est vraiment mieux que c'était. Mais puis mettez pas vos mains dans les pochettes.
Ah non?
Mais non, mais c'est parce que...
Pourquoi je t'ai pas connu il y a 5 ans, toi?
Mais là, si tu te mets les mains dans les pochettes, garde les mains dans
tes poches. Deux secondes, tu te mouches dans l'avion, tu le mets où, ton Kleenex?
Ben ouais.
Ah, il y a pas juste ça, là. Il y a des vieilles...
Ah, le sac, t'as pas le temps de le prendre, hein? Tu sais, tu te rends pas pour le sac à vomi.
Ouais, c'est ça. Là, tu sais, le sac à vomi, c'est la petite pochette. Finalement, c'est toujours, les adultes qui font les plus grosses crises. Dans les avions, c'est jamais des enfants. Quand tu leur demandes de mettre un masque, d'attacher leur ceinture de sécurité, ou blablabla. Bla. Ça, c'est ce que ça dit.
Dictature.
Je
paye des taxes, moi.
J'ai payé mon billet, ça m'appartient, cet avion-là.
On a compris, Karen, je pense.
Non, mais j'ai pas vu d'adulte faire de crise énorme, pour être vraiment honnête avec vous autres. J'ai vu du monde cave, puis j'ai vu des enfants qui avaient tout simplement mal aux oreilles en atterrissant ou en décollant. Fait que, tu sais, souvent, c'est pas de la faute de l'enfant, là. Puis, tu sais, en tant que parent, tu te sens extrêmement mal parce que tu sais que tu déranges tout le monde. Fait que là, tu sais, c'est rien de rassurant pour ton bébé, etc. Fait que, ouais, c'est ça. Soyez juste
indulgents. Mais l'enfant, c'est pas de sa faute, mais l'adulte choisit, lui, de faire une crise, t'sais.
Ouais, c'est
oui,
ça.
Mais mais tu sais, il y a du monde, là. J'ai vu une madame, moi, crier dans l'avion, là. On s'en allait atterrir à Boston, puis pour vrai, l'avion vacillait, là. Il y avait des vents vraiment forts. Mais là, madame, elle criait, puis elle implorait Jésus. Mm. Ben, tu sais, elle a peur. Fait que c'est pas une crise. J'étais allée m'asseoir à côté, j'ai tenu la main jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à temps que je puisse être avec elle. Puis son mari, écoute, il avait changé de place, lui, là, tellement qu'il était gêné, là. C'était pas drôle.
Ça me rappelle, tu sais, dans le film, y a-t-il un pilote dans l'avion, là, tu sais, il se rallie toute une en arrière de l'autre pour la raisonner, là. Non.
Les gens qui ont peur, c'est. Moi, on avait eu un problème avec un vol, on venait de la Floride, puis on était venu pour atterrir à Québec, puis là, je sais pas, on allait trop vite, je me souviens pas. On a touché la piste, on est redécollé, puis on dit, on revient pas ici, on s'en va à Montréal. Fait qu'on a atterri à Montréal, mais le stress causé dans l'appareil a fait que il y a un passager qui a eu un malaise.
Ouais.
Fait que là, ça a créé l'état d'urgence encore plus grave, si on veut. Fait qu'on a atterri rapidement à Montréal et là, en premier, avant de se lever, quiconque, ils sont venus secourir le monsieur. Et là, on est débarqué de l'avion pour prendre un autre appareil pour revenir à Québec. Il y a la moitié du monde qui sont revenus par le propre moyen.
Ouais.
Qui n'ont pas repris l'avion. Il y en avait comme eu assez.
Ouais,
là,
c'est
assez
beau aujourd'hui.
Mais c'est pas le fun, les turbulences, mais il me semble que j'ai lu qu'il n'y a jamais eu un accident d'avion à cause de la turbulence, jamais.
Non, il y a des blessés parce que le monde ne s'attache pas ou encore respecte pas la consigne des ceintures de sécurité.
Les valises, ça a tête.
Ouais.
Oui. Quand je vois là, les grosses valises carry-on parce que les gens veulent pas payer, puis je vous comprends, là, puis les compagnies, ils chargent cher, mais fait que tu essaies d'avoir le plus gros possible.
Et puis qu'ils forcent.
Oui, mais c'est parce que si ça tombe, ça tombe sur la tête. C'est ça.
C'est comme les bouteilles de Ford du Dirty Free.
Oui.
Ouais.
Ça, tu bois pas ça dans l'avion.
Ben non, mais non, c'est ça. Mais tu sais, faut que t'es mettes soit dans ta valise ou dans quelque chose d'un peu serré, parce que si ça se met à brasser, t'es en temps en haut.
Galing, 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 galing.
C'est pas le temps de te détacher, te lever, ou si ça brasse, c'est pas le temps de te lever. Hein, c'est assez complexe. Ben voilà, c'est merci, Nicolo. On a fait
un
grand tour.
J'ai une question pour toi. Vu que t'as été agent de bord, j'ai-tu le temps?
Oui.
Quand j'ai pris un vol pour l'Inde,
oui.
Avant d'atterrir, les agents de bord passent dans l'avion avec une canette.
Ah oui, c'est des exigences. Ça arrive dans le sud aussi. C'est pour les moustiques ou certains trucs pour pas que ça rentre dans l'avion pour qu'on les ramène au Canada ou dans l'autre pays.
OK, donc avant d'ouvrir les portes dans un pays étranger, ils vont répandre un genre de gaz inodore,
c'est comme
j'imagine.
Une canne de spray.
Oui, c'est comme une canne de spray.
Y en a-tu un contre les influenceurs?
Non, il n'y en a pas. Ni contre les colons, non.
Ils l'ont
plus,
en vapoteuse.
Ouais, c'est ça. Les autres, on les règle comme ça. OK, vous êtes dans du pont le matin. C'est vendredi. L'émission tire à sa fin.
Ah ouais.
Bougez pas. On vient avec le mot de la fin.
Avec Dupont, ça boulègue. Dupont in the morning.
Johnny Holiday, celle-là.
Yeah. Headbang, tout le monde.
Quand le virus s'étale sur toute l'humanité, que l'on est confiné trop loin des champs de blé.
D'ailleurs, Jean Fournier, jaloux, j'ai tout volé ses vieilles tunes en français.
Mais c'est une tune sur la COVID, ça?
Ouais, là, c'est toi qui chante, Kiwi. Là.
Kiwi, c'est toi qui chante.
Ah, c'est juste pas... Mauvaise version, excusez. Je vais retourner me coucher.
Hey, c'est pas grave, elle est bonne, elle est meilleure celle-là.
Elle est meilleure. As-tu vu, PA, comme ça passe vite, 4 heures?
C'est effrayant.
Invité spécial le matin, t'es arrivé avant moi.
Ben, j'étais arrivé le premier, en fait, j'étais arrivé tout seul. Okay. J'asais avec ton monsieur en bas qui va au McDo.
Ah oui,
oui c'est ça.
C'est Maurice qui s'appelle?
Oui, c'est ça. J'asais avec Maurice un petit peu, puis j'ai donné un peu d'argent aussi.
C'est cool.
Il m'a dit qu'il allait au McDo manger, puis il était content. Puis qu'aujourd'hui, il ferait chaud.
Puis ce monsieur-là apprécie tellement. Les gens qui écoutent l'émission, des fois, le début à 6 heures, je parle de lui. Des fois, j'amène des bangs ou des muffins, puis je lui en offre tout le temps. Puis il est tellement reconnaissant à chaque fois. On ramasse les collants de café que je lui donne quand je le croise. C'est toujours, toujours intéressant de jaser avec.
C'était bien le fun, en tout cas. Merci, gang, pour le beau matin. J'espère reprendre ça avec vous autres un moment donné.
C'est le bienvenu. On va te faire une carte
Ouais, fais-moi faire une carte d'accès, puis une veste, puis un parking, puis là,
Hey, Ray, est-ce que t'as appris quelque chose ce matin? On a-tu été capable de t'apprendre?
Ouais, ben, le dynamisme de Max Lavoie, je trouve ça bien.
Impassionné.
Oui.
Pierre, Eye of the Tiger dans Black Lives Matter, je ne savais pas ça. J'ai appris qu'ils utilisaient cette chanson-là pour que le son disparaisse.
Très bon, très belle remarque. Karen?
Moi, le sang qui coule de l'os d'un tomahawk, c'est les larmes de la Sainte Vierge.
Wow, j'aime ça. Nico?
J'ai appris qu'un tribunal britannique a déterminé que appeler un homme chauve, c'est du harcèlement sexuel.
J'aime ça.
Moi, je suis arrivé déjà instruit, c'est correct.
C'est toi qui chantais la
On a-tu réussi à t'apprendre quelque chose ce matin?
Absolument, que 4 heures de radio avec du bon, c'est le fun en tabarouette.
Bon, ben, content de partager ça avec vous autres. Fait que, amusez-vous, restez là toute la semaine prochaine, puis on se reparle.
On se fait la bise, de merveilleuses vacances, y'a pas de souci. Allez!
C'est un malade.
Pas là.
tassé Bob Bissonnette pour cette tune-là. Hey, merci, vous avez été extrêmement gentils. Merci les amis, passez une belle semaine.
Bonne semaine,
on a eu
beaucoup
de fun. Oui, hein, si l'avion s'écrase.
Quelque chose.
Sois fin avec les agents de bord.
Et oui, honnêtement, oui. Des fois, je le dis pas tout le temps, mais oui. Et Nico, tu vas nous remplir une salle de cinéma la semaine prochaine.
Yes.
Puis on va aller voir Top Gun. Fait que salut les peureux. Peut-être dans deux semaines. Bye bye.
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Le homard est de retour dans vos rôtisseries Saint-Hubert de la grande région de Québec. Savourez les petits bonheurs de l'été avec la guédille, la salade et le Saint-Burger de homard du Québec.
Lui, il va l'acheter ton bloc, Airfortin.com, yes!
Yes, yes, yes! La chanson le dit, où qu'il soit au Québec, Airfortin.